cordes 2022. Avec Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Je pensais aujourd'hui vous parler de la conférence de dimanche prochain de Sandrine Victor sur la construction de cordes, enfin sur les bâtiments, enfin, etc., les acteurs plus exactement. Et puis malheureusement, on est obligé d'abandonner ce projet puisque Sandrine Victor ne peut pas venir à Cordes ce jour-là. Et donc, je ne vais pas vous parler de ça. Je me suis dit de quoi j'allais bien pouvoir causer. Il faut occuper l'antenne d'une façon ou d'une autre, sinon j'aurai des gros yeux de la direction de CFM. Bref, comme on est dans les journées du patrimoine, on va rester dans le bâtiment cordé, bien sûr. Et surtout, il y a une chose que finalement je trouve intéressante, de mon point de vue, c'est que samedi dernier, donc le 17, on a eu une conférence sur les demeures gothiques de Cordes. Donc ces grandes maisons gothiques qui font la gloire de Cordes et qui nous occupent plus ou moins. Et une conférence faite par Madame Béa, Adeline Béa, et elle était extrêmement intéressante. Je me suis dit, je ne vais pas vous raconter la conférence, on ne l'a pas enregistrée de toute façon. Et bon, ça a duré de toute façon aussi une bonne heure et demie, donc, mais c'était extrêmement intéressant. Et donc, je vais me faire l'écho de cette conférence, parce que il est possible que parmi vous, tout le monde ne soit pas venu à Fontbérousse pour ça. Et une conférence qui était pas seulement intéressante et agréable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais aussi très instructive. J'ai appris énormément de choses personnellement. Bon, je connais pas tout, bien sûr, mais enfin quand même. Qui apprend des choses et en même temps qui pose des questions, nous aide à nous interroger sur l'histoire de Cordes. Et forcément, ça m'intéresse et je sais que ça vous intéresse. Alors, Madame Béa, vous la connaissez peut-être, puisqu'elle travaille sur la région, sur le pays Cordes depuis déjà 2 ou 3 ans. Elle est docteure en histoire de l'art. Elle a fait une thèse sur l'architecture médiévale en Occitanie, très intéressante. Et elle travaille, vous l'avez peut-être rencontré, aux universités d'été du Tarn, où elle est une des animatrices de l'université d'été. Et pour le moment, depuis 2 ans, je crois, ou 3, et encore pendant sans doute 1 an ou 2, elle a été mise à la disposition de la 4C par, la région, etc., pour faire une recherche, un bilan, si on peut dire, du patrimoine architectural de la 4C. Donc, elle voit toutes les maisons, de quelle date elles sont, enfin, vous voyez, une étude pour faire le point sur le patrimoine. C'est un peu à la mode en ce moment, bien sûr, c'est tant mieux. Bon, peut-être ça pourrait faire mieux, parce qu'on s'occupe beaucoup plus des pierres et des choses mortes que des êtres vivants, mais enfin, c'est toujours ça de gagner. Et ça vient dans le prolongement d'autres études qui ont été faites il y a quelques années par Madame Cassan, vous en souvenez peut-être si vous l'avez rencontrée, par les architectes et les étudiants de Chaillot qui sont venus voir surtout les fondations des anciennes fortifications de Cordes. Et donc... c'est intéressant de voir que quelqu'un de sérieux passe son temps à étudier le patrimoine architectural de la région. Et pas seulement de Cordes, et ça me paraît très intéressant. Vous savez que un des points qu'on essaie à quelques-uns de mettre en avant pour ce 8e centenaire, c'est de dire, attention, rappelons-nous que Cordes a été fondée comme un pôle fédérateur, c'est-à-dire en lien avec les châteaux, les villages qui étaient autour de Cordes au temps de Raymond VII, enfin autour du pays de Mordagne, et donc ça va nous permettre de mieux connaître le patrimoine architectural de la 4C, où elle ne va pas dans le détail, elle ne peut pas s'occuper d'une croix de chaque chemin, des choses comme ça, mais enfin il y a pas mal de choses intéressantes, et en particulier avec Penn. Et j'espère bien qu'un jour on aura aussi une conférence sur Penn et qui sera aussi intéressante, aussi enseignante en quelque sorte que celle de qu'elle a faite samedi dernier. C'était particulièrement intéressant parce que d'abord elle a un débit, elle a une façon de parler qui est tranquille, agréable, qui s'entend bien, donc c'est pas fatigant, on s'endort pas, c'est intéressant. Et puis elle avait c'est la mode, moi je m'en sers pas beaucoup, mais c'est la mode d'avoir un PowerPoint, donc des tas de photos que personne d'entre nous n'a l'occasion de voir dans le détail des maisons, parce que elle est rentrée dans toutes ces maisons dont elle parle, elle a parlé avec les propriétaires, mais aussi elle a étudié dans le détail les poutres, les pierres, etc. Et donc c'est quelque chose qui fait vraiment bien le point sur les demeures de Cordes. Nous allons nous arrêter une petite minute.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
I want to go out and clear my head.
2022, Michel Bonnet. Donc nous, dans le cadre de, dans la suite des Journées du patrimoine, nous parlons donc de la conférence de Madame Béat sur les grandes maisons de Cordes, les demeures gothiques, comme on les appelle officiellement, de Cordes. Et Madame Béat nous a donc donné des renseignements extrêmement intéressants, et notamment quelque chose que je ne savais pas, et que peut-être vous ne savez pas non plus, donc je n'en sais rien, mais c'est que non seulement des études de dendrochronologie ont été faites sur ces maisons, mais en plus elles ont donné des résultats extrêmement précis et intéressants. Alors on va parler pendant 3-4 minutes de cela. Vous savez ce qu'est la dendrochronologie, mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au courant de voir comment ça se passe et surtout pourquoi il faut y accorder une grande importance. Alors, juste quelques mots. C'est une nouvelle technique qui est assez récente, dans le scientifique, tout à fait reconnue maintenant, et qu'on utilise en archéologie, en histoire bien sûr, puisque l'histoire et l'archéologie sont très très liées, et qui consiste à connaître l'âge, à déterminer l'âge des poutres, ou des plafonds, disons des éléments en bois d'un édifice, d'une maison. Et pour cela, on fait donc dans des endroits précis, bon, les spécialistes, on va pas descendre dans ces détails, bien sûr, mais on fait des prélèvements, c'est-à-dire avec un appareil, une sonde, on sort une carotte de bois, des carottes de bois dans des endroits très précis, etc., pour les analyser. Vous savez, on fait ça aussi, mais à un autre stade, quand il y a les recherches sur le pétrole ou les recherches sur la glace, les glaciers en ce moment, avec la fonte des glaciers, on étudie beaucoup l'histoire du climat à travers justement les carottes de glace. Et donc, c'est la même chose avec le bois. Et pourquoi on peut faire cette étude-là? Eh bien, vous savez que le bois a des... Quand on coupe un tronc, on voit des cernes, et chaque cerne de bois correspond à une étape de la vie du bois. Une année, ou deux années, ou trois années, peu importe. Voilà. Et ça, on peut l'étudier de très près, l'étudier au microscope, etc., etc. Et on arrive à avoir des résultats absolument, je dirais, fabuleux pour les historiens, puisque on peut avoir, si les bois sont en bon état, au meilleur de l'évaluation, on peut arriver à un an près. Et ça c'est extrêmement intéressant, parce que quand on arrive sur les maisons de Cordes qui ont été toutes bien protégées, si on peut dire, enfin il y en a qui ont été abîmées, tout le reste, mais enfin on a dans toutes ces grandes maisons là des poutres à différents endroits, mais surtout sur la charpente, des poutres qui ont été très bien conservées, et on a donc pu les étudier. Or on a découvert avec ça une chose, c'est que tous ces arbres qui ont servi pour les grandes maisons, pour les poutres des grandes maisons, ont été coupés dans les forêts au début de l'hiver de 1290 ou de 1291, mais à un an près. Vous voyez, vous rendez compte? Alors que nous, on est là à discuter pour savoir s'il y a une maison, si elle est du 12e ou du 13e siècle, là, c'est à un ou deux ans près. Ce qui veut dire que ces maisons n'ont pas pu être construites avant 1290, puisque les poutres sont là. Et qu'en plus, il a fallu... Quand on sait que les spécialistes nous le disent, on sait que une fois qu'on a coupé ces arbres, il faut les laisser reposer, non seulement pendant tout l'hiver, mais quelquefois plusieurs années après. Et puis c'est pas parce qu'on a eu un arbre à disposition qu'on va s'en servir de suite. D'où vous voyez de suite ce que ça veut dire, c'est que toutes ces maisons remonte à la fin du XIIIe siècle, entre 1290 et 1300, 1310, 1320. Voilà, c'est une date qui est extrêmement intéressante, parce que au point de vue historique, bon, 1222, c'est la fondation de Gordes. Si on s'imagine que les maisons ont été construites en 1222, vous voyez comment on se plante. On est loin du compte, puisque on est 80 ans plus enfin 60, 70, 80 ans plus tard. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant de réfléchir à ça du point de vue de l'histoire de Gordes. Et c'est aussi intéressant sur un autre point, c'est qu'on voit que toutes ces grandes maisons qui sont, vous voyez, c'est toutes les maisons qu'on a sur entre le portail peint et la porte des Ormonts sur la rue Saint-Michel, la grande rue pas Saint-Michel, pardon, le contraire, sur la grande rue Raymond VII, et quelques maisons également de l'autre côté sur la rue Saint-Michel. Donc voilà, il y a eu une campagne de rénovation, de construction de Gordes. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que des gens se sont mis d'accord. Ça veut dire qu'il y a eu une époque où les événements ont invité la population à améliorer l'habitat, à améliorer les fortifications, tout ce que ça signifie. Et donc, ça éclaire énormément l'histoire de Gordes à ce moment-là. Parce que lorsqu'on met ça en relation avec le politique, avec Raymond VII, avec la croisade contre les hérétiques, avec l'Inquisition, avec la vie des évêques d'Albi ou d'ailleurs, avec les changements avec le roi de France et tout le reste, vous voyez, de suite, c'est toute une période où on est en plein brouhaha. Et donc, c'est intéressant d'améliorer un peu notre connaissance, bon, même si on ne va pas descendre dans le détail. Je vais donc revenir un peu sur cette importance pour l'histoire de Gordes avec ces dates-là. Auparavant, on s'arrête un petit moment.
CFM. CFM Radio. CFM Gordes.
Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart's protection? I don't know. If I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart or tenderly use it? Too much. Could a heart so right be led so wrong? If his love is weak, would it last this long? I don't know.
de Michel Bonnet. Nous sommes donc dans le regard sur les grandes maisons de cordes et en particulier grâce à la conférence de Madame Béat et ce qu'elle nous a dit sur les études de dendrochronologie, on sait maintenant que ces maisons qui nous entourent, notamment dans toutes ces grandes maisons de la rue Raymond VII, que ce soit le Grand Fauconnier, que ce soit le Grand Veneur, l'Écuyer, Gaugiran, etc., Estivalès, toutes ces maisons-là, quoi, qui ont chacune un nom particulier, bien sûr. Donc, toutes ces maisons, on sait maintenant qu'elles ont été construites après 1291, puisque à quelques mois ou à un an près, un hiver près, on sait que ça ne peut pas être plus tôt. Un an plus tard peut-être, mais pas plus tôt. Or, cela, du point de vue historique, est extrêmement important. La première chose que vous voyez de suite, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle l'époque royale, c'est-à-dire le temps où Cordes appartenait au roi de France. C'est plus du tout Cordes de Raymond VII, c'est même pas l'époque d'Alphonse de Poitiers. Alphonse de Poitiers est déjà mort depuis déjà pas mal de temps. C'est même pas l'époque de Louis IX, il est mort aussi. Vous voyez, ça vient après, c'est bon, on va pas aller sur la longue histoire, mais donc on est là sur une époque très différente de l'époque précédente avec Raymond VII, avec Alphonse de Poitiers, etc. Qu'est-ce que ça nous dit déjà? C'est que bon, ça fait un peu sourire d'entendre quelquefois les gens dire « mort au roi et vive l'Occitanie et vive Raymond VII, bien sûr », mais vous voyez, où on attaque et on dit que ça a été un malheur de venir sous la coupe des Capétiens, des rois de France, etc. Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les plus belles maisons de cordes qu'on admire, qui font l'attrait pour le tourisme aujourd'hui, et donc pour l'économie cordaise aujourd'hui, parce que sans ces maisons à cordes aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de monde, eh bien, tout ça, ça nous vient de l'époque royale. Donc, voyez, ça nous dit déjà que le développement de Cordes, non seulement n'a pas été stoppé par l'entrée sous la coupe des rois capétiens, mais au contraire a acquis un développement énorme, puissant, un développement dans la richesse. Oui, parce qu'il faut avoir de l'argent pour faire des maisons comme ça. C'est pas une petite cabane en torchis, vous voyez, c'est des maisons de 5-6 étages en pierre de taille, enfin, etc., etc. Vous les connaissez aussi bien que moi. Donc, une richesse qui a profité. Peut-être pas à tous les habitants, certainement pas à tous les habitants de Cordes. On voit, c'est sans doute comme aujourd'hui. Et la richesse, les super profits, ils descendent pas beaucoup dans nos poches à Cordes. Hein. Et c'est aujourd'hui, ça va plutôt sur chez Bolloré et tout ça, quoi. Hein. Donc à cette époque-là aussi, on est là sur toute une équipe de riches, mais qui ont fait profiter la cité, parce que ça a mis de l'effervescence, ça a mis du commerce, de l'artisanat, etc. Et donc, ça a été un très bon point. On en a un signe avec ces maisons que Cordes s'est vraiment très, très bien développé, agrandi et développé. Et puis aussi, ça montre le pouvoir politique qu'a eu Cordes. Cordes qui était appelée par les rois de France une de nos bonnes villes. C'est-à-dire que, par exemple, si les Cordais disaient « non, les impôts sont trop lourds, etc. » pour telle et telle raison, plusieurs fois, on a vu les rois abaisser les impôts parce qu'ils faisaient confiance à la ville de Cordes. Et quelquefois, pour payer les rançons de grands seigneurs ou même des rois pour quand ils avaient des problèmes à la guerre, eh bien, les grands riches de Cordes qui habitaient dans ces maisons, étaient là pour donner du pouvoir, de l'argent. Et puis, rappelons-nous, une date extrêmement importante dans l'histoire de Corde, c'est 1321, la jonction, enfin disons, la reconnaissance par l'Inquisition des consuls de Corde, et donc de l'arrêt des troubles qu'il y avait avec les problèmes de l'Inquisition, tout ce qu'il y avait. Bon, ça a continué un peu, bien sûr, mais je veux dire, c'est une date clé dans le développement de Corde, avec c'est l'époque aussi où Bernard de Castanet, vous savez, le grand évêque albigeois, qui a défrayé la chronique sur des tas de problèmes, qui finalement s'est fait virer et par la population et par le pape. Bref, Bernard de Castanet était à cette époque-là. Et c'est à cette époque-là qu'il a mis en route la construction de la cathédrale Sainte-Cécile. Vous voyez, donc, on est là dans un grand mouvement. Et pour parler de Corde plus en détail, c'est l'époque, juste après la construction de ces maisons, donc, où on a eu Bernard Délicieux, le grand franciscain, qui est venu essayer de défendre les hérétiques qui pouvaient, enfin ceux que l'on accusait d'hérétiques, les cathares, contre l'Inquisition. Et il y a laissé sa vie, hein. Mais enfin, il a pendant plusieurs années, il est venu à Corde et il a essayé de convaincre les gens et de convaincre surtout l'Église que normalement il fallait respecter les droits des habitants. Et donc voilà. Et ça s'est passé devant ces maisons. Donc vous voyez que c'est une époque qui est extrêmement vivante et vous en doutez. Quand des grands seigneurs, quand le roi ou quand des militaires de haut rang, des chevaliers de haut rang, etc., discutent avec la population pour des histoires de franchise, de péage ou tout ça, ils parlent pas de la même façon avec des gens qui sont dans une maison comme les grandes maisons du Fauconnier ou du Veneur, et puis ceux qui sont au bord du trottoir à pas savoir où dormir, hein. Et aujourd'hui, c'est pareil. J'imagine que, on le sait, Macron ne parle pas avec le roi de Saoudi avec des grands seigneurs comme ça, comme il parle avec les gilets jaunes ou des gars qui font la grève. Hein. Alors donc voilà. Et donc ça nous montre une époque vraiment qui est une invitation à réfléchir à ce qu'a été cette époque. Et puis un deuxième point que je voudrais qu'il faut souligner, qu'il faut pas oublier, c'est que le Corde que nous voyons, que nous visitons, que nous faisons visiter, que nous prenons en photo, que nous sur lequel nous écrivons des tas de bouquins, etc., dont on parle quelquefois à CFM, etc., inconnu de Raymond VII. Raymond VII n'a jamais vu le Corde que nous regardons. Et ça, il faudrait y penser. Parce que quand on écoute parfois, je m'amuse quelquefois en écoutant certains guides faire visiter les maisons de Corde, etc., et faire le lien avec les cathares et avec Raymond VII et les luttes et le travail de Raymond VII, et que après l'attaque de Saint-Marcel par Simon de Montfort, il avait construit Corde pour reloger les pauvres paysans de Saint-Marcel. Ça fait rêver, parce que c'est complètement hors du coup. Donc il faut revoir notre façon de penser à Raymond VII, et puis de le connaître peut-être. C'est une invitation à mieux le connaître. Et surtout, ça nous invite à étudier Raymond VII autrement, à étudier Corde, autrement qu'on ne le fait habituellement, c'est-à-dire autrement qu'à la superficie. Parce que le Corde de Raymond VII, il existe encore, mais en dessous. Et c'est ce qui est extrêmement intéressant dans cette conférence que Madame Béa nous a donnée, avec les photos qu'elle nous a montrées en pagaille, c'est qu'elle a pu, avec l'accord des propriétaires qui ont été volontaires pour participer à ça, elle a pu étudier les les fondations, l'aspect des caves, donc de la partie des maisons qui a été construite à l'époque justement de Raymond VII. Et déjà, une première chose qui est extrêmement importante, c'est que le périmètre bâti, c'est-à-dire la véritable cité de Corde, la cité en haut de Corde, était beaucoup plus petite que celle que l'on voit aujourd'hui avec ses grandes maisons. On pense que quand on voit par exemple les traces des fondations de ces maisons, on s'aperçoit qu'elles passent toutes à peu près au milieu des maisons. Les maisons ont été bâties à moitié sur l'emplacement de l'ancienne maison, les nouvelles demeurées, sur l'emplacement de l'ancienne maison, et à moitié sur de l'autre côté de la fondation. On a comblé le fossé en quelque sorte, où on a mis des pièces, des garages, des choses comme ça, on peut le voir aujourd'hui, sur l'autre côté. C'était à cheval sur les murailles qui faisaient le tour de Corde. On connaît bien cette première enceinte de murailles et qui part. On le voit de façon très précise de la porte des Ormeaux, fait le tour de Corde des deux côtés pour rejoindre le portail peint, mais qui dans les maisons passe non pas au bord de la rue, non pas au bord des maisons de l'autre côté des rues, mais au milieu. Et on en retrouve la trace, par exemple avec le petit portanel qu'on a, vous savez, ce petit portail qu'on a quand on monte, quand on vient du Formillet et qu'on arrive presque sur la place de Corde. Là, on a la limite de l'ancien Corde. Vous voyez que c'est tout près du centre de la place de la Halle. Et de l'autre côté, c'est le virage des rampes, les rampes, ce qu'on appelle les rampes, avec ce dernier virage qui était l'entrée, là aussi, de Corde. Donc, un périmètre de Corde beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit que ce que l'on voit, que ce que l'on a l'habitude de penser aujourd'hui. Et c'est ce Corde-là que Raymond VII a connu. Bon, on va s'arrêter encore, si vous voulez, une petite minute.
CFM.
CFM Radio.
CFM Corde.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons notre visite de des belles maisons de cordes et en particulier donc je disais que les maisons que nous voyons ne sont pas celles qu'a vues Raymond VII. Raymond VII avait une autre vision de cordes et donc notamment elles étaient beaucoup moins importantes, beaucoup moins grandes et ces murailles de cordes faisaient que la cité était beaucoup plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et elle suivait d'ailleurs la falaise à l'abri de la falaise, un peu comme on le voit ça au château de Peine. Vous voyez, on est là, on se demande comment les maçons ont bien pu construire des murailles pareilles au ras du précipice. C'était la même chose ici à Cordes. Et donc voilà cette vue qui est obligatoire, vu que les techniques de la dendrochronologie nous certifient que ces grandes maisons n'ont pas pu être bâties avant 1290. Voilà. Il y a là aussi une chose intéressante, c'est que ça nous parle de la stratégie de Raymond VII. Et c'est toujours intéressant de regarder ça, parce que là, c'est pas des élucubrations, c'est du concret. Toutes ces maisons appartenaient à des grands seigneurs. Des grands seigneurs, ça veut pas dire comme le comte de Foix ou le comte de Toulouse, pas du tout. Non, mais les seigneurs du coin, ou si vous voulez, les petits seigneurs qui étaient là et dont on connaît les noms. À la Prune, au-dessus du Millars, vous voyez, le château de Lexos, les Claris, par exemple, qui est une des super familles et hyper connues, les Rabastens, hyper hyper connus aussi. Donc ça nous dit que Raymond VII, pour lancer Cordes, pour construire Cordes, a d'abord passé du temps. Combien de temps, on n'en sait rien, mais peut-être plusieurs années, peut-être, à passer du temps à essayer de convaincre ceux qui avaient un pouvoir sur la région, c'est-à-dire donc ces seigneurs, ces chevaliers qui ramassaient les impôts, qui faisaient payer les péages, etc., etc. Et donc il a réussi à les convaincre en leur disant, eh bien, installez-vous à Cordes, installez-vous dans cette cité que nous allons construire, vous serez à l'abri, donc plus de problèmes pour protéger vos trésors, vos finances, pour vous protéger vous-même, etc., pour protéger ceux qui travaillent avec vous, vous serez à l'abri derrière des murailles dans une cité qui sera véritablement imprenable. Et il a réussi à les convaincre et donc à les faire venir ici. Et c'est comme ça que on sait que on a des listes, on a des tas de seigneurs de cette époque-là qui sont venus s'installer à Cordes, et qui à ce moment-là ont fait leur serment de fidélité vis-à-vis de Raymond VII, mais qui ensuite, quand après le traité de Paris, ils se sont retrouvés avec Alphonse de Poitiers, où ils ont été obligés aussi de la même façon de faire leur serment de fidélité à Alphonse de Poitiers. C'est comme ça d'ailleurs que on a la liste comment ça s'appelle, on les a aux archives d'Albi, la liste de tous ces seigneurs qui étaient à Cordes et qui ont fait un serment de fidélité au nouveau comte et donc à travers lui au roi de France. Et ça c'est intéressant parce qu'en même temps ça nous montre qu'il y avait une programmation de la cité de Cordes, et que là-dedans, ces seigneurs ne faisaient pas simplement que ramasser les impôts ou se prélasser, profiter du beau temps, etc. Ces maisons, on le voit, elles sont toutes en rez-de-chaussée avec des locaux pour soit travailler, soit surtout pour le commerce. Des entrepôts, des magasins de vente pour le commerce. Donc, une cité qui est à la fois laborieuse, mais commerçante. Laborieuse pour le commerce. Et ça, c'était un des points importants de la stratégie. On le sait de stratégie de Raymond VII, on en a parlé ici, vous êtes habitués avec CFM à ces émissions-là, et donc on sait toutes les activités qu'il y a eu à ce moment-là pour provoquer le développement économique de Cordes à travers le commerce. On en reparlera certainement à l'occasion de la conférence de Madame Cocagnas sur la charte de Cordes, qui est la charte des franchises données par le comte de Toulouse, par Raymond VII, aux habitants de Cordes, c'est-à-dire à tous ces riches, ces gars-là, quoi. Et donc, ça, c'est intéressant de voir ça. Mais là-dedans, il y a une chose qu'il faut pas oublier aussi, c'est l'autre aspect dont je parle beaucoup parce que, enfin, quand j'ai l'occasion, j'en parle beaucoup parce que j'aime ça, quoi. Mais c'est que dans le cœur de la stratégie de Raymond VII, il y a le fait que le centre de la cité est vide. Le centre de la cité, c'est la place de la Halle. Elle est vraiment au croisement des quatre rues qui mènent à l'intérieur de Cordes. Et elle est vide. Elle est vide parce que Raymond VII veut la mettre à la disposition des gens pour se rencontrer, pour échanger, pour commercer, etc. Et ça rentre véritablement dans l'ensemble. On voit les relations à travers l'architecture avec toutes ces maisons. Cette construction, même que l'on voit aujourd'hui, nous rappelle, nous montre que le projet de Raymond VII est un projet d'envergure, un projet grand, long. Et il faut pas oublier, c'est que là-dedans, il y avait des travailleurs. Il n'y avait pas que les commerçants ou les producteurs de diverses choses, notamment du drap, puisque c'était le tissu qui était la richesse numéro un de Cordes à cette époque-là. Or, le drap, le tissu, etc., tout ce tissage-là, ça représentait énormément de gens qui travaillaient. Bien sûr, il y avait des gars qui se la coulaient douce et qui récupéraient les bénéfices, comme aujourd'hui, mais il y en a une masse de gens qui travaillaient. Quand on pense que pour un seul métier à tisser, ici dans Cordes, et il n'y en avait pas qu'un, hein, pour un seul métier à tisser, il fallait tous les jours qu'on ait 60, l'équivalent de 60 femmes qui filent la laine de brebis pour assurer que le fil, la matière première du métier. Et il n'y a pas que ça. Il y a le travail sur le fil, il y a la teinturerie, et puis après le tissage, etc., etc. Donc vous voyez un peu de suite, pour un seul métier, pour assurer simplement le fil nécessaire au tissage, il y a déjà 60, au moins une soixantaine de femmes. Donc, des familles entières, avec les enfants, etc., qui travaillaient dur pour assurer ce développement économique. Et ne parlons pas des teinturiers, des transporteurs, enfin, etc., etc. Donc, vous voyez, quand on pense à ces grandes maisons et ce développement extrêmement intéressant de la richesse économique de Cordes, il ne faut pas oublier, même si ces gens-là n'habitaient certainement pas dans Cordes à ce moment-là, plus tard, petit à petit, ils sont venus là. Mais au début, ils habitaient dans la campagne. Ils étaient autour de Cordes. S'il y avait un problème, ils venaient se réfugier dans Cordes, bien sûr. Puisqu'ils avaient l'habitude de venir régulièrement, tous les jours, tous les deux jours, trois jours, de venir apporter leurs produits à Cordes. Et donc, il y a tout ce monde-là qui vivait dans... autour, ou même des fois, dans ces grandes maisons. Parce que ces grandes maisons, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous montrent, quand on les étudie en détail, comme le fait Madame Béat, c'est qu'elles nous montrent que des parties étaient louées, elles n'étaient pas qu'habitées par les seigneurs, tranquillement, etc. Il y a tout un système, même de location à des gens. Enfin, c'était des maisons très grandes, autour d'une, nous les connaissons, à Gaugira, Fontperrouse, toutes ces maisons-là, nous savons qu'elles sont toutes construites autour d'une cour centrale, et là, eh bien, les gens se réunissaient, et à partir de là, ils montaient dans les étages, et les escaliers sont en extérieur, je veux dire, sur la paroi extérieure, mais dans la cour. Et de là, on avait accès à tous les étages. C'était extrêmement, avec tout ce qu'il faut pour l'eau, l'adduction d'eau par des gouttières pour récupérer l'eau de pluie qui amenait l'eau jusque dans des citernes qui sont dans les souterrains des maisons que l'on voit très bien aujourd'hui, pour le chauffage parce qu'il y avait beaucoup de cheminées, etc. Un confort, non seulement des grandes maisons, mais des maisons très confortables pour l'époque, et même du luxe. Moi, c'est la première fois que j'ai pu voir avec Madame Béat autant de photos sur des peintures de maisons de cette époque-là, des peintures de cette époque-là dans ces maisons de Cordes. Alors que, bien sûr, on les voit pas parce qu'on rentre pas dans les maisons, on les visite pas. Et puis, les gens sont pas, ne font pas de la publicité pour ça. Mais c'est extrêmement intéressant de voir d'imaginer le luxe que ça représentait sous ces maisons, ces cloisons peintes, soit sur la pierre, soit sur du plâtre, des enduits, soit sur du bois, etc. Des sculptures également en pagaille. Donc on voit là que on a eu avec ces maisons un très fort développement, très riche, très positif, et qui a permis à Cordes de traverser, juste après la construction de ces maisons, ça a été, vous le savez, la grande peste, et Dieu sait si aujourd'hui on peut en parler, on connaît un peu ça, et puis après la guerre de 100 ans qui a également fait énormément de dégâts. Voilà une conférence, vous voyez, qu'on a eue de Madame Béat, qui fait progresser beaucoup à la fois la connaissance de Cordes et progresser l'intérêt, je pense, qui devrait faire progresser l'intérêt des Cordais et des gens en général sur la cité de Cordes, une cité, on le voit, tout à fait exceptionnelle. Je vous remercie de votre attention. C'était Cordes 2022, Michel Bonnet.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Down the road, do you recall that very place? Never had a meaning before that day. We all met and they shot. Touch me on the cemetery, taste some wild cherries, generosity. Touch me, let them sleep and we'll recall all the atrocities. Listen to the brass band. Shiny, shiny golden trumpet, a shot from a roof and we lay down there. You testify. Touch me on the cemetery taste of wild cherry generosity. Touch me, let them lie and we will recall all the atrocities.
Oh, how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder. Wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder. Wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder. Wonder, don't you? You've been